Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h, entourée des grandes voix. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Carmis du Figaro Magazine, et toutes vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou au 3921, Nathalie.
Bonsoir à vous, les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Emmanuel Macron, qui est attendu à Mayotte sur la question de l'immigration clandestine. Je voudrais vous entendre là-dessus parce que, on nous dit, on nous vend ça comme le déplacement de 4 jours du président, qualifié de plus important voyage national depuis la rentrée, le premier dans l'océan Indien pour le président de la République. Il est attendu là-bas, non pas avec les honneurs, mais plutôt avec beaucoup de fraîcheur, Gérard Carrérou.
Vous savez, c'est un département qui est... C'est un département français, il faut le répéter, même si beaucoup de gens ne savent pas très bien où ça se situe. Et moi, le premier, je n'y suis pas allé. Je veux dire, c'est un département sinistré parce qu'il y a des tas de problèmes sociaux de tous ordres. Donc, il est clair que le président de la République va être accueilli par le cortège de tous ces problèmes. Et puis, deuxième raison d'y aller, si j'ose dire, pour un chef d'État, c'est que Mayotte est en train de devenir une plateforme d'immigration illégale vers la France. Et on voit même, chose incroyable, on voit même des Maghrébins du Maroc ou d'Algérie qui vont à Mayotte, prennent un billet d'avion, et ils prennent un billet d'avion pour les Comores. Ils prennent un bateau des Comores pour aller à Mayotte, et de Mayotte, ils achètent une carte. On achète une carte d'identité à un jeune de Mayotte pour 2000 euros ou 3000 euros, et avec ça, on tente la France. Donc, c'est devenu. Il y a un trafic. Il y a tout. Bon, voilà pourquoi c'est important.
Lille est l'une des plus touchées par la crise migratoire. 48% de sa population est étrangère, dont la moitié en situation irrégulière. Carl Meus et Mickaël Darmon, c'est une urgence pour le président d'y aller, mais d'y aller avec quoi ? D'y aller avec quelle proposition ? Avec quelle mesure ?
Ah oui, c'est ça le problème, et c'est là-dessus qu'il est attendu. C'est-à-dire que si c'est juste un voyage pour dire...
Rassurer,
oui, voilà, je connais votre situation. Il l'avait fait pendant la campagne, d'ailleurs, il avait fait un petit mot qui avait pas été tellement apprécié sur le nom des bateaux qui servent aux Comoriens à débarquer à Mayotte. Mais si vous permettez une nuance, ce n'est pas en train de devenir la porte d'entrée, c'est déjà la porte d'entrée. Puisque cette immigration irrégulière n'est pas nouvelle, vous l'avez dit. C'est quand même incroyable d'imaginer que la moitié des gens en situation irrégulière sur place.
Mais il y a
donc
déjà...
il faut qu'ils soient avec des situations concrètes, des mesures concrètes très précises.
Alors très précises dans la lignée, Mickaël Darmon, et si ce n'est plus, depuis plusieurs mois déjà les contrôles, les reconduites vers les Comores.
Oui, et pas seulement effectivement
c'est pas assez,
l'immigration.
Alors,
bien entendu, il y a ce que l'on voit beaucoup de métropoles, je dirais, le sujet immigration. Mais il y a aussi la situation sociale. Le gouvernement, et en particulier le président de la République, avait quand même trois ministres, hein, Castaner, Djebari et Transport, et bien sûr Gérardin d'Outre-mer, viennent aller vérifier comment le plan de rénovation de 1,6 milliard d'euros décidé par l'État va être appliqué. Et c'est effectivement très très lent. 84% d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le quart-monde, ce département français, c'est un des représentants vraiment du quart-monde et de ce qu'on fait le plus pauvre. C'est vrai que l'accueil va être assez animé.
Plus que frisqué, ils l'attendent à Boulet Rouge.
Par exemple, les pompiers, justement, vous dites bien Boulet Rouge, ben les pompiers, les hommes en rouge, ben, ils ont décidé de faire grève de l'accueil et de la sécurité de l'avion présidentiel en solidarité avec leurs collègues ici. Donc,
le collectif des citoyens
France,
de Mayotte
absolument.
Aussi. Qui veut
le
pas...
collectif des citoyens, tout le monde attend des prestations, tout le monde attend effectivement de l'argent. Mais à la différence du début du mandat, quand Emmanuel Macron arrivait en Outre-mer, il disait « je ne suis pas le Père Noël ». Cette fois-ci, il va un peu obligé,
il va être obligé de sortir
de
quelque chose de ça.
Même si effectivement, le plan est déjà commencé.
On se retrouve dans une seconde, on va parler de ces listes communautaires. Que faut-il faire ? Faut-il les interdire, comme le préconise Bruno Retailleau ? Débat animé à suivre.
Vous écoutez Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h. Nathalie, vous êtes entourée des grandes voix ce soir. Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Carl Meus du Figaro Magazine et toutes vos réactions au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Assurément, cela va faire débat. Hein. Le patron des sénateurs Les Républicains va déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections, pour contrer ce qui est une forme de sécession, a-t-il dit au JDD, Bruno Retailleau, hier. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Qu'est-ce qui inquiète véritablement dans ces listes communautaristes, Gérard Carrérou?
Je crois qu'il a raison, à mon sens, il a raison. Et le Premier ministre également a raison de dire qu'il faut tout faire pour les empêcher. La seule question que je me pose après, c'est comment on fait?
C'est ça. Comment Sébastien Lecornu, il dit qu'il faut un front républicain.
Hein. Oui. Mais comment on peut empêcher? Dans la mesure où, bon, disons les choses telles qu'elles sont, dans un certain nombre de périphéries, d'un certain nombre de grandes villes et de moyennes villes de France, on a des communautés qui sont rassemblées et qui se sont développées comme telles, et de plus en plus avec sous les bergers plus ou moins bien intentionnés de l'islamisme radical. Ils sont donc regroupés. Alors il est facile de dire on va choisir l'un d'entre nous et il va se présenter une liste, etc. Et ça a été fait de manière, je dirais, homéopathique déjà une ou deux fois, avec des petits scores ici ou là, de 4-5%. Bon, mais on peut très bien avoir, si c'est bien organisé, et là je sens que ce coup-ci, ils se sont préparés, ils se sont bien organisés, on peut avoir des scores beaucoup plus importants.
Mais alors c'est ça qui
inquiète. Alors comment on les empêche? Moi j'attends de savoir quelles sont les mesures que le gouvernement va proposer.
Bah,
et je pense qu'il faut proposer quelque chose.
Mais Karl Meus, qu'est-ce qui inquiète véritablement? C'est qu'on aille faire campagne dans les caves? Enfin, qu'il y ait ces mouvements qui prolifèrent dans les caves, ou que ça pique des électeurs.
Ce qui inquiète, c'est qu'il y ait certains endroits qui basculent, qu'il y ait des villes qui basculent. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'aux dernières élections législatives, il y a dans une circonscription, celle de Pupponi par exemple, la ville de Gonesse, le candidat qui se présentait contre François Pupponi était majoritaire en voix dans la ville. Il n'a pas gagné la circonscription parce que la circonscription était plus large et François Pupponi connaissait bien ses électeurs, donc il a pu l'emporter. Mais ce qui voulait dire qu'en projection, la ville de Gonesse pourrait basculer. Donc, il faut éviter cela. Le problème, c'est ce qu'a dit Gérard Carrérou, c'est comment on le fait. On ne peut pas dire aux gens... C'est parce que vous êtes musulman ou que vous allez, on va vous interdire. D'autant plus que jusqu'ici, ce qui se passait quand il y avait une liste communautariste de personnes issues de l'immigration qui venaient par exemple d'Algérie, en réalité, les Marocains, les Tunisiens, les Turcs ne votaient pas pour lui. Pour plein d'autres raisons qui ne sont pas forcément des bonnes raisons. Peut-être que là, cette fois-ci, s'ils s'organisent différemment, c'est-à-dire qu'ils disent on est musulman, on est pour un islam radical, mais on ne va pas le dire. On va vanter les mérites de notre action pour la ville. Et à ce moment-là, c'est en sous-main qu'ils agissent sur le communautarisme. Et là, c'est plus dangereux.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent, Michael Darmon. Il faut interdire tout financement public d'un mouvement comme ça,
l'argent,
d'un mouvement communautariste.
Il y aura toujours de l'argent pour financer ce genre d'initiative. Mais reprenons quelques instants les choses au fond à la racine. On n'a jamais interdit le Front National. On n'interdira jamais les listes communautaires.
Et j'allais dire...
Parce qu'on est dans un pays qui n'interdit pas les organisations politiques.
Et puis, pardonnez-moi, mais le Parti chrétien-démocrate, Christine
part,
Boutin,
et deuxièmement,
c'était quoi
l'autre question, c'est comment on va définir ce qu'est une liste communautariste ou une liste identitaire que l'on va interdire au nom de quoi? Au nom de quel type de programme?
Permettez-moi de dire quand même.
Non, mais
ce que vous voulez...
Le combat, il est politique, il va être politique. On sent bien, d'ailleurs, ce que dit Lecornu, Front républicain. Ça veut dire tout de suite un combat politique et non pas un combat législatif ou réglementaire.
En fait, ce qu'il faut, c'est les démasquer.
C'est la difficulté. Voilà. Et puis surtout, il faut aussi, à ce moment-là, remettre à plat un peu le comportement de beaucoup d'élus depuis des années qui ont passé des accords avec des associations, avec des organisations communautaires pour assurer la paix dans les quartiers et les contingents de vote quand il le fallait. Et bien aujourd'hui, ça revient en boomerang. Donc il y a une remise à plat totale de gouvernance avant de traiter, je dirais, les faits le plus visible et peut-être aussi le plus incompréhensible.
Ouais, mais sur votre comparaison, quand même...
Mais c'était pas un peu provocateur, mais forcément, la question, elle se pose.
Je trouve que c'est quand même une mascarade. Dans un pays comme la France...
La question, elle va se poser.
Je sais bien, mais de comparer le petit parti, effectivement, chrétien...
Chrétien-démocrate.
On peut remonter aussi aux démocrates chrétiens, au MRP. Il y a eu un grand parti français à la Libération qui s'appelait le MRP, qui était presque légal des deux autres grands partis de l'époque. Bon, mais comparer ça avec le parti radical islamiste,
ou islamiste radical. Les partis même chrétiens de l'époque ne mettaient pas en cause...
Mais enfin, ils vont utiliser cette comparaison. Mais il ne faut quand même pas se laisser attraper comme...
Le problème, il est celui des solutions. Il n'y en a pas.
Et puis comment véritablement on définit ces listes? On se reparle dans une seconde. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée jusqu'à 19h des grandes voix. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Karl Meus du Figaro Magazine. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21. Et Georges a composé le 39-21, il nous appelle d'Angers. Bonsoir à vous Georges, bienvenue.
Oui, bonsoir Nathalie Lévy, bonsoir à tout le monde.
On se posait la question.
Particulièrement. Oui. Alors la question est simple. Pour moi, si vous voulez, je pense que les partis en place devraient intégrer à l'intérieur de leur liste des musulmans de toute tendance. Et à partir de là, si vous voulez, on n'a pas besoin d'avoir des listes communautaristes telles qu'il y est proposée. Moi, c'est mon impression. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable et que les partis vont s'ouvrir à cette disposition?
Voilà ma question. Alors, Karl Meus, entre autres, va vous répondre.
Oui, bonsoir Georges. Mais c'est déjà le cas.
Oui.
Et depuis longtemps. Et heureusement, il y a plein de communes, et pas seulement d'ailleurs en banlieue des grandes villes, qui ont intégré des gens issus de la culture musulmane, issus de cette religion. La grande différence, c'est que ces gens-là respectent les lois de la République. Et c'est pour ça qu'on peut les intégrer dans les listes, c'est pour ça qu'ils peuvent être adjoints au maire, ils peuvent être conseillers municipaux. Là, ce dont on parle, ce sont des listes qui avance masqué sous couvert de pouvoir se présenter et de respecter les lois de la République, mais dont on sait très bien qu'une fois qu'ils seront élus, ils feront tout pour... alors, est-ce qu'on peut dire faire sécession? Le mot est peut-être fort, mais ça peut être là.
Mais ils feront passer la loi, comme ils le disent volontairement, la loi de la charia au-dessus de la loi de la République. C'est ça qui est pas... Parce que c'est vrai que dès le général de Gaulle, dès les élections de 62, il y avait des musulmans qui ont été élus au Parlement français sur des listes du général de Gaulle. Et puis il y en a. Après, d'autres partis, tous les partis d'ailleurs, les grands partis, ont eu effectivement des élus. Mais ce sont des gens qui sont français et qui respectent effectivement à la fois la laïcité, enfin tout ce qui est, tout ce qui fait la France. Ouais. Mais là, on n'est pas sûr que ceux qui veulent se présenter sont ça, sur la même ligne. Ouais. Pas
vous
du
avez
tout.
Vu ce que dit Madame Buzyn, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Elle dit que ce serait une première, il ne faut pas, ça n'est pas souhaitable dans un État où on cherche justement la diversité, l'intégration.
Mais une fois qu'on a dit « il ne faut pas, c'est pas bien », qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours pareil. L'incantation face à l'efficacité politique, ça a toujours été un questionnement vis-à-vis de l'extrême.
Non mais je voulais vous dire ça parce que je me demandais si le gouvernement, si on accordait bien ses violons au sein du gouvernement. Mais, c'est aussi pour ça que je vous posais la question.
Ça veut dire ça aussi.
Pardonnez-moi.
Mais on sent bien, dans ce gouvernement, on a l'habitude maintenant, et quelque part tant mieux, de voir des expressions différentes, des débats.
Oui, en même temps.
C'est aussi une manière de vivre. On n'est pas caporalisé. Si tout le monde était sur la même ligne, on dirait personne ne peut s'exprimer. Donc la question que Georges pose en fait, elle est celle du combat politique, c'est-à-dire que effectivement beaucoup et partons allons aussi de l'autre côté sur 36 000 communes, on va dire pour faire vite, et on parle d'une éventuelle cinquantaine de listes qui pourraient être communautaires identitaires. La grande majorité des citoyens français d'origine musulmane est bien évidemment dans le sillon de la démocratie et n'est pas dans la logique de dire qu'il faut faire sécession. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une logique où on est en train de d'hystériser
d'ouvrir la boîte de Pandore, peut-être.
Ouvrir la boîte de Pandore, elle est déjà largement ouverte. Et puis notre travail est de raconter ce qui se passe. Mais attention, gardons une proportion sur la réalité de ce phénomène.
Karl Meus, merci Georges, si vous êtes toujours avec nous, merci à vous. Karl.
Le problème, c'est ce que dit Madame Buzyn, elle parle... Il n'y a pas de problème si ça va dans le sens de l'intégration. Mais le problème de ces listes, c'est que ça va dans le sens de la désintégration. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Si...
Tant qu'il n'y a pas d'actes, tant qu'il n'y a pas de paroles qui mettent en cause les fondements de la République, il n'y a pas de désintégration, Karl.
Mais exactement. Le problème, c'est qu'on sait que ces listes-là avancent masquées. On sait qu'une partie des gens qui sont sur ces listes, qui dirigent ces listes,
mais
sont
elles
justement...
ont déjà existé. Elles existent déjà, ces listes. On a bien vu que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'actes consécutifs. Il n'y avait pas la moindre parole qui mettait en cause les fondements de la République.
Oui, et surtout, jamais ils n'ont gagné. C'est-à-dire que soit ils faisaient des scores ridiculement bas, comme le rappelait Gérard Carrérou, soit il y avait une sorte de front qui se remettait en place, front républicain. Là, la question, et peut-être qu'on joue à se faire peur, peut-être que ça ne concerne pas beaucoup de villes, mais le simple fait qu'il y ait une ou deux villes qui, au soir de mars 2020, basculent avec ces listes-là, là, on passe dans une autre dimension.
Merci à tous les trois pour ce débat, ce sujet qui évidemment va être largement commenté. Et notamment, je poserai la question à Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, dans un petit instant. Il sera mon invité à 19h10 précisément. Merci les grandes voix.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy, avec le journal de 19h de Sébastien Krebs. À la une de ce soir, la SNCF. On y revient. Quelle est la marche à suivre pour se faire rembourser? C'est pas si simple que ça, vous allez voir.
Vous écoutez Nathalie Lévy, vous êtes sur Europe 1. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir.